Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée dans le réveil culturel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui sort Les Grands Espaces de Catherine Meurice, édité par Dargo. L'auteur revient sur son enfance passée à la campagne, comment elle a grandi avec les arbres, les animaux et les livres. Elle est avec nous ce matin, donc Catherine Meurice, pour nous parler des grands espaces qui ont été déterminants dans sa vie de dessinatrice. La campagne d'abord, le musée du Louvre ensuite. Elle nous expliquera comment on peut passer de l'un à l'autre. Le réveil culturel, c'est tous les jours de 6h à 6h30 à la radio, ou quand vous voulez, en passant par le podcast et l'écoute en ligne, disponible en quelques clics à partir de franceculture.fr. À la coordination, Corinne Amar, à la réalisation, Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique, Philippe Mercher.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Je suis vraiment ravi de vous retrouver, Catherine Meurice.
Bonjour Toufik, moi aussi je suis ravie.
Alors je vais faire semblant que je ne vous connais pas, donc je résume votre vie. Vous êtes née en 1980 à Niort, dans les Deux-Sèvres. Et après des études de lettres modernes, vous avez fait des écoles d'art, art déco, art graphique. On a pu ensuite voir évoluer votre trait, le trait fin qui vous caractérise dans la presse, Libé, Cosette, Télérama, L'Obs. Vous avez aussi publié des bandes dessinées, Mes Hommes de Lettres et Le Pan des Arts chez Sarbacane. Claire Bretéché a signé la préface de Savoir Vivre ou Mourir. Vous êtes en quelque sorte sa fille spirituelle. Vous avez travaillé avec la scénariste Julie Birman pour cette galerie de portraits de femmes en bande dessinée, drôle de femmes. Vous avez rejoint l'équipe de Charlie Hebdo en 2005 et vous avez publié, après l'attentat contre les dessinateurs de Charlie, La Légèreté, poignant récit de votre retour à la vie. Et ce dernier album, Les Grands Espaces, qui sort aujourd'hui en librairie, est un peu de la même veine. Il s'agit d'un récit personnel, très intime, où vous revenez sur votre enfance. Une enfance à la campagne, donc.
Oui, une enfance dans les Deux-Sèvres, une campagne très, très tranquille, je pourrais dire ordinaire, mais quand on est enfant, on peut trouver toute campagne ordinaire extraordinaire. Mes parents ont toujours vécu à la campagne.
Ah ouais ?
Mon père vient de la Meuse, bon, il a fait ses études supérieures à Paris, et puis il est retourné. Ensuite, il a trouvé du travail dans les Deux-Sèvres, où il a rencontré ma mère, et ma mère a été mère au foyer quand ma grande sœur est née, en 77. Donc j'ai toujours vu mes parents à la maison bricoler, monter des murs de pierre sèche, faire des boutures, planter des arbres, etc. Voilà, mes parents étaient là.
Et moi, c'est assez étonnant parce que les grands espaces s'ouvrent sur une famille qui s'installe.
Oui, c'est-à-dire que je suis née à Niort et j'ai vécu 7 ans à Niort. Voilà. Et ensuite, mes parents se sont dit, bon, bah, en fait, ils ont voulu que leur fille ait la vie qu'eux, ils ont eue, c'est-à-dire une vie au grand air. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, voilà, on va les installer dans une magnifique ferme en ruine, où il n'y avait rien, à part
sinon
le vent.
Sinon des cailloux.
Voilà, un désert de pierre. Et pour autant, ben, je ne me suis pas du tout ennuyée dans cette ruine. Au contraire, je raconte dans Les Grands Espaces comment tout était prétexte à des jeux, à des découvertes, et comment grandir dans un chantier aiguise un peu le regard. Quoi.
Tout est vrai dans cette bande dessinée, ouais, Catherine Meurice, parce que ce début de cette famille qui s'installe dans un terrain complètement vide, avec une maison qui tombe en ruine, des cailloux partout. C'est-à-dire une terre qu'il faudra reprendre depuis le début. Hein. C'était comme si c'est la naissance du monde, hein. Planter des arbres.
Oui, oui.
Tout ça est totalement vrai, c'est pas pour faciliter une narration plutôt symbolique sur votre rapport à l'enfance, à la terre, à l'histoire familiale.
Oui, en effet, le père remonte des murs de pierre, donc c'est plutôt il est du côté des fondations, et la mère s'occupe plutôt des plantes. On est dans quelque chose de beaucoup plus la matrice, etc. Non, tout est vrai. Et mes parents me disent aujourd'hui, quand ils repensent à dans quel état était la maison il y a 35 ans, bientôt 40 ans, ils disent, mais on a été complètement fous d'acheter ça. Enfin, ça a coûté une bouchée de pain. Enfin, c'était rien du tout. Mais c'était leur truc, en fait. Mon père, quand il était jeune, plutôt que d'aller, avoir quelle occupation, il remontait des, enfin, il bricolait des vieilles baraques. Ça l'amusait, en fait. C'était ça. Donc, Donc mes parents ne sont ni des néo-ruraux, ni des hippies, ni des gens qui veulent retourner à la terre. C'est juste des gens qui aiment la nature et qui sont vraiment des sentimentaux et aussi qui sont très terriens et qui nous ont transmis à ma sœur et à moi ce goût là de la nature, de la campagne et de l'observation surtout. Je crois que ma BD raconte ça, comment on apprend à observer et où mène cette observation en ce qui me concerne au métier de dessinatrice.
C'est-à-dire planter, greffer, tailler, labourer, arroser, débroussailler, réparer la toiture, jointer un mur, rendre toute plante heureuse, pour reprendre vos mots, consolider son amitié avec les abeilles, donner à manger aux animaux, cultiver un lopin de terre aménagé comme un jardin de Versailles par votre père.
Oui, c'est-à-dire que, enfin, c'est moi, gamine, qui avait des rêves de Versailles, en fait. C'est-à-dire que je dis dans la BD, j'aime bien que les choses soient bien rangées. Bon, ça a changé aujourd'hui, mais enfin, oui, en arrivant sur cette terre complètement déserte, moi, je rêvais de grands arbres, de bosquets. Je voulais, voilà, quelque chose de beaucoup plus vert, de beaucoup plus accueillant. Et il fallait attendre, parce que, bon, pour que Versailles arrive, il faut attendre plusieurs centaines d'années. Il faut que les arbres deviennent centenaires et que le château se construise. Et en attendant, on s'amusait à donner des noms aux lieux. Alors, il y avait une grille en fer forgé complètement branlante qu'on avait trouvée, je sais pas où. On l'a appelé le petit Trianon. On pouvait imaginer qu'elle menait à un château. Enfin, et voilà, on a rebaptisé comme ça des petits endroits. Le verger est devenu jardin de curé. L'allée, il y avait une allée avec des érables que mon père a plantés. C'est devenu l'allée cavalière. On imaginait qu'on aurait été un jour des carrosses.
Encore Catherine Meurice dans les grands espaces. C'est pour ça qu'à un certain moment, je pensais que vos parents avaient fait un retour à la terre. C'est qu'ils sont très intellectuels. Ils lisent beaucoup. La littérature est très, très importante. Et ils ont même trouvé le moyen d'appeler un arbre Swad, rien que pour le plaisir de pouvoir dire, pour vous, hein, Catherine Meurice, quand vous y alliez du côté de cet arbre, que vous alliez du côté
oui,
de
Swan. Oui, quand ma mère disait, mais où est-ce que tu vas jouer? Ben, je répondais du côté de chez Swan. Ouais. Et on riait. Non, là, j'avoue, c'est une petite entorse à la réalité, parce que j'ai découvert Proust plus tard, et mes parents aussi d'ailleurs. Mais, la réputation de l'œuvre de Proust le précède. Et donc, voilà, on connaissait l'univers de Proust, cet écrivain de la mémoire, et je crois que ça nous rassurait d'avoir des noms d'écrivains comme ça, de la même manière que dans le jardin de mes parents, pratiquement toutes les essences ont une origine. Il y a énormément de plantes qui viennent d'autres maisons d'écrivains. Ma mère s'est toujours amusée à faire des boutures, donc en visitant la maison de la tante Léonie chez Proust, elle s'est dit, bah, tiens, j'ai vu un rosier qui venait vers moi, hein, donc j'ai pris une bouture. Donc à la maison, on a le rosier de Proust, on a le rosier de Georges Sand, parce qu'à Nohant, ma mère, voilà, un petit peu la main baladeuse, elle a récupéré une bouture de rosier de Georges. Mon père, lors d'un déplacement professionnel, avait visité la tour de Montaigne, du côté de Bordeaux, bah, il a rapporté une petite bouture. Donc on a le rosier de Montaigne, on a le figuier de Rabelais. Enfin voilà, mes parents ont toujours voulu s'entourer comme ça d'écrivains, de symboles, et tiens, c'est drôle, parce que dans mes bandes dessinées, je m'entoure beaucoup d'écrivains. Voilà. Je les fais parler.
J'aurais pu aussi rajouter Pierre Loti. Pierre Loti, très présent dans les grands espaces, Catherine Meurice, ou encore Zola, que votre mère n'aime pas.
Oui, Zola.
Parce qu'il aurait rien compris à la nature. Ça, oui. ça me le rend sympathique, du coup, Zola.
Oui,
plus que jamais.
Oui, il, bien sûr, il est sympa, Zola. Mais oui, je me souviens avoir lu La faute de l'abbé Mouret. Je l'ai lu d'ailleurs dans le verger, hein, sous un pommier. J'avais été subjuguée par ce paradou, ce jardin luxuriant, qui est vraiment le jardin d'Éden. Et j'avais raconté ça à ma mère. J'avais dit, mais j'étais allée la trouver dans la cuisine en disant, mais j'adore vraiment, c'est tellement merveilleux, toutes ces plantes, etc. Et ma mère m'avait dit, ah non, mais moi je déteste, enfin, c'est pas possible, Zola fait pousser les violettes en même temps que les tournesols, enfin, c'est n'importe quoi, ça n'arrive pas dans la réalité, etc. Et je remets en scène cette anecdote que je trouve vraiment très drôle, et du coup mon personnage dit à la mère, mais tu crois que Zola a mis de l'engrais? Parce que vraiment, on s'interroge. Et en fait, bien sûr, Zola s'est amusé n'était pas un jardinier, mais c'était un écrivain, et la littérature, c'est ça, c'est faire des mélanges, et c'est ce que je fais dans ma propre bande dessinée. Si on regarde de près, je ne respecte pas le rythme des saisons. Je fais les transformations qui me chantent. Et c'est ça aussi les grands espaces, c'est l'imagination.
Pourquoi cette envie de revenir sur votre enfance à la campagne, dans les grands espaces, Catherine Meurice?
Ça s'est imposé. C'est un livre qui est lié à la légèreté, hein, que j'ai fait après l'attentat contre Charlie. C'est vraiment. J'avais eu l'idée de ce livre avant l'attentat, en 2014. Et à l'époque, mon propos était beaucoup plus pamphlétaire. C'était très Charlie. Je bossais encore à Charlie à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et j'avais l'habitude de faire des pages très, très sarcastiques sur l'agriculture intensive, qui faisait beaucoup rire Charles Bolinski, etc. Et j'avais envie de, voilà, de parler surtout de ça, en fait, de paysages et d'une certaine campagne défigurée, du remembrement. Enfin, c'était quand même assez, assez noir. Et, enfin, toujours humoristique, mais quand même, le propos était assez dur.
Avec une veine de militante.
Voilà, vraiment une veine de militante, oui, oui, oui.
Ce qui n'est pas le cas ici.
Non, moins. C'est-à-dire que bah, l'attentat est arrivé. J'ai, comme je le raconte dans La Légèreté, j'ai perdu la mémoire après le choc du 7 janvier, temporairement. J'ai eu très peur parce que j'ai pas su au début que ce serait une amnésie temporaire.
On rappelle quand même si c'est un épisode très douloureux, que vous avez échappé à l'attentat parce que vous êtes venu en retard.
Je suis arrivée en retard à la conférence de
réaction.
Du 16 janvier 2015. Et donc, voilà, perte de mémoire, amnésie sensorielle, etc. Tout ça, je le raconte dans La Légèreté. Donc, porte fermée, accès interdit aux souvenirs. Je ne pouvais plus accéder à mon enfance. Donc, j'ai interrompu ce projet. Et puis, de toute façon, l'écriture de La Légèreté s'est imposée. C'était vraiment vital. Et La Légèreté a été publiée. Et j'ai repris mes notes ensuite. Déjà, je voulais appeler le livre Les Grands Espaces à l'époque. Et j'ai repris mes notes. Et puis, je me suis rendu compte que il y avait vraiment, ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'étais aujourd'hui. Il y avait vraiment l'avant et après Charlie. Et j'ai tout repris. Et de la même manière que je disais après l'attentat et dans La Légèreté que je n'avais plus de colère. Et voilà, j'avais besoin, je crois, de dire les choses avec beaucoup plus de douceur. Et bien voilà, j'aborde ces sujets écolo ou politiques avec un peu plus de douceur. Disons que c'est vraiment un personnage enfant qui parle et qui voit les choses avec ses yeux d'enfant. Et peut-être que le message passe est d'autant plus efficace. D'ailleurs.
Mais c'est introspectif, c'est une manière aussi de dire d'où vous venez, Catherine Meurice.
Ah oui, oui, exactement, j'avais besoin de ça. La Légèreté posait la question d'identité. Je me disais, mais qui suis-je après la catastrophe de Charlie? Est-ce que je suis toujours debout? Est-ce que je suis toujours vivante? Est-ce que je vais pouvoir encore dessiner? Et je tentais de répondre à ces questions. Et les grands espaces se posent la question de d'où je viens et d'où je parle. Et qu'est-ce qui fait que... Pourquoi est-ce que j'ai réactivé certaines choses après l'attentat? Pourquoi est-ce que je suis allée puiser dans la peinture et la littérature et la nature? D'où ça vient? J'avais besoin de faire un état des lieux, de poursuivre cet état des lieux qui a commencé dans l'album La Légèreté. Ouais. Donc cet album, Les Grands Espaces, s'est imposé... Le retour à l'enfance était logique, je crois, et voilà, il fallait que je revienne aux sources.
Il y a tous les sentiments liés à l'enfance qu'on retrouve dans Les Grands Espaces. Catherine Meurice, il n'y a pas une envie d'expliquer, de justifier, c'est juste chronique de votre enfance, et pourtant, on a l'impression de mieux vous connaître en lisant Les Grands Espaces, ne serait-ce que ce voyage, à un certain moment, cette famille à la campagne décide de faire un voyage et vous décidez d'aller au musée du Louvre. Et là, même si vous le dites pas d'une manière très directe, on devine tout de suite que la petite fille que vous étiez va être complètement aspirée par la beauté des paysages, des peintres représentant la nature, cette nature que vous connaissiez.
Oui, exactement. Ça a été un choc. Enfin, un choc, non, un choc très doux en fait, parce que en arrivant au Louvre,
c'est le début d'une vocation en tout cas.
Oui, mais je l'ai su plus tard, je pense, mais ça s'est fait vraiment petit à petit. Mais en arrivant au Louvre, j'ai eu l'impression que j'arrivais dans une autre maison, dans une seconde maison, et c'était étonnant parce qu'en effet, j'étais attirée par les peintures qui représentaient de la verdure, des prés, des arbres, tout ce que j'avais autour de moi dans là où je vivais. Mais il fallait que je voie ça. À travers les yeux des artistes. Et je cite Proust, bien sûr, qui m'accompagne, qui était déjà présent dans La Légèreté, qui dit que le plus formidable des voyages, ce n'est pas d'aller très loin, en fait, c'est de voyager à travers les yeux des autres, et notamment les yeux des peintres. Et c'est ce que je fais, je voyage à travers les yeux des peintres, et je vais voir comment les peintres ont vu cette nature qui, moi, m'entoure, et qui est, voilà, et qui est au creux de laquelle je grandis, et qu'est-ce que ça donne. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de peindre et de dessiner. Mais ça, je m'en suis rendu compte en faisant cet album. C'est drôle comme on peut se rendre compte de ce qu'on est ou de ce qu'on fait après avoir écrit ou après avoir dessiné.
C'est-à-dire, dans Les Grands Espaces, Catherine Meurice, vous dessinez des tableaux et vous dessinez la nature à partir de cette influence qu'ont eu sur vous les grands maîtres de la peinture.
Ah oui, je raconte en blaguant, mais c'est vrai que j'ai eu un accès de romantisme. Oui, j'avais envie d'être Girodet, de peindre d'après les œuvres de Chateaubriand, etc. Et pourquoi cet attrait pour le romantisme? Peut-être parce que le romantisme, en tout cas la peinture romantique, le romantisme, c'est la conscience de soi dans la nature, c'est ce se retrouver soi. Je crois qu'il y avait déjà des choses qui me parlaient et qui là sont plus claires dans l'album parce que je le raconte avec ma voix d'adulte mine de rien. Mais oui, j'ai vraiment eu un accès de romantisme.
Je suis revenue dans cette ville au loin perdu où j'avais passé mon enfance. Plus tard, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent, les reflets de sol et le blâme. Je me suis couchée sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence.
Mon enfance par Barbara. Vous nous faites pleurer de bon matin, Catherine Meurice. C'est vous qui avez choisi cette chanson.
Ah mais c'est terrible. Non mais vous m'avez poussé, Toufik. Non mais il y a quelque chose qui me touche dans cette chanson, c'est quand elle dit qu'elle se met dos à l'écorce et que l'arbre lui redonne des forces. Et ça m'a toujours plu. Ça, c'est. Je crois que c'est ce que je dis. Bon, mon livre est beaucoup moins sinistre que la chanson de Barbara, quand même.
Votre livre, votre dernière bande dessinée éditée chez Dargaud, Les Grands Espaces, Catherine Meurice. J'ai l'impression que vous avez un peu changé votre style de dessin avec cet album. C'est-à-dire qu'on retrouve votre fin très Claire Bretéché, si l'on veut, ou Reiser pour les personnages. Mais cette fois-ci, en représentant la nature, les jardins, les arbres, les saisons, on a l'impression que l'autre grand sujet des grands espaces, c'est-à-dire la découverte de l'art et du musée du Louvre, vous a plus ou moins influencé.
Déjà, j'ai changé d'outil. Ça fait des années que je travaille la plume. Bon, le dessin de presse imposait ça aussi, hein, travailler vite, de manière. J'avais un dessin donc nerveux. Et là, j'ai changé d'outil. J'ai tout dessiné au crayon, crayon de papier, et ça amène une certaine sensualité. Ça permet de dessiner les matières de la pierre, de la végétation, etc.
Mais pourquoi vous avez choisi le crayon? C'est aussi une manière d'accompagner ce retour vers l'enfance.
Oui, vraiment, c'est l'outil qu'il fallait pour dessiner l'enfance et dessiner la nature. Oui, ça ne pouvait pas être aussi nerveux qu'avant. Il fallait que ce soit plus doux, tout simplement. Et c'est un dessin que j'ai fait un tout petit peu plus lentement, et déjà cette lenteur, ce changement de rythme donne le ton. Enfin, j'avais très envie de changer. Oui, très envie de changer. La légèreté annonçait ça déjà, je crois, hein, une envie de changement.
Par exemple, cette double page, qui est donc la page
68,
69, ouais.
Ça, c'est inspiré d'une sanguine de Fragonard. Parce que comme.
Là, on est dans l'hommage direct ou dans la réinterprétation ou...
Les deux. C'est-à-dire que je ne cite pas Fragonard, il faut vraiment aller tout à la fin du bouquin pour avoir la référence, mais j'ai toujours aimé ces peintres-là, ces grands dessinateurs-là de cette époque qui ont beaucoup dessiné les jardins, et enfant ça me fascinait. Et le dessin original de Fragonard, c'est une sanguine, donc c'est ce trait un peu ocre rouge là, et moi j'en ai fait quelque chose de beaucoup plus charbonneux et vert, mais j'avais envie de voyager dans ce dessin et de me dessiner dedans, tout simplement pour laisser le lecteur comme moi lui laisser le temps de la contemplation, en fait. Et il y a vraiment mille choses à contempler, à regarder dans un dessin de Fragonard, mais ça pourrait être devant une toile de coraux, le feuillage des arbres de coraux, celui des peintures de poussins. Enfin, il y a vraiment c'est quelque chose qui me fascine et que j'ai reproduit. Et reproduire ces peintures de nature, c'est pas les copier, mais c'est leur rendre hommage. Je crois que les peintres romantiques n'affirmaient cela, ils ne copiaient pas la nature, ils montraient la force créatrice de la nature.
Et vous-même, Catherine Meurice, vous êtes retournée sur les lieux de votre enfance pour dessiner les grands espaces où vous avez travaillé
à partir de vos souvenirs, à partir de quelques représentations picturales ou des photos trouvées ici, là, dans la malle de votre famille ou sur Internet, tout bêtement.
Non. Alors, les souvenirs sont revenus. Donc, j'ai trié mes souvenirs. Voilà. Et je suis retournée sur les lieux de l'enfance pour m'inspirer, pour voilà, vraiment respirer l'esprit des lieux, justement, et mémoriser les choses, vraiment emmagasiner les sensations, les impressions.
Avec votre calepin et un crayon?
Avec, oui, un calepin, un crayon, un appareil photo et ma mémoire. Voilà, j'ai fait travailler ma mémoire en me disant, bon, voilà, il y a telle lumière à cette heure-ci, etc. Enfin, et ensuite, j'ai dessiné à Paris. Il fallait que je dessine en ville, en fait, il faut qu'il y ait ce recul et ce manque. Et c'est vraiment l'ouverture de l'album. Je me dessine dans un appartement parisien et la campagne me manque. Donc je prends mon crayon et je trace un trait sur le mur et je dessine une porte que je pousse et je rentre directement dans un champ de tournesol. Et c'est comme ça ensuite que j'arrive dans l'enfance. Mais j'avais vraiment ce manque à l'époque où j'ai commencé le livre et d'ailleurs je crois que tous mes albums de bande dessinée ont à l'origine un manque. Hein. La légèreté, c'était ça aussi.
Puisque vous avez parlé de cet effet un peu extraordinaire en début de votre album, Catherine Muris, on peut parler de ce nain de jardin qui représente votre conscience.
Oui.
Il l'a représenté à un moment ou là.
Non, ça, je vais donner ce rôle après, là, quand j'ai écrit ce livre. Mais j'ai vraiment eu un nain de jardin, ouais. D'autres ont des Barbies, moi j'avais un nain de jardin. Parce que j'avais demandé à mes parents de me dessiner me créer un tout petit jardin, un tout petit Versailles, mais de 4 mètres carrés, hein, que je pouvais cultiver. Et puis bon, ça m'a occupé 3 mois parce que je me suis lassée, je suis vraiment pas jardinière. Mais j'avais, comme une fontaine royale au milieu de ces 4 mètres carrés, j'avais un petit nain de jardin en plastique que j'étais allée acheter à l'Intermarché du coin. Et ce petit nain dans la bande dessinée se met à parler et il fait des réflexions sur le jardin à la française et le jardin à l'anglaise, le beau, le sublime. Non, il est pas con, hein, ce nain. Et il me montre aussi la voie, c'est-à-dire que il me dit vers la fin, mais bon, il va bien falloir que tu sortes de ce paradis là, cet Éden, ce jardin où tu grandis presque pas sous cloche. Mais enfin, c'est quand même un enclos, le jardin. Le paradis, c'est un enclos. Il me dit, il faudrait peut-être que tu en sortes et qu'est-ce que tu vas faire en sortant? Et je lui réponds, mais je vais vivre dans d'atroces souffrances. Si je sors du paradis, ça va être l'enfer. Et il dit,
Et pourtant, dans ce paradis, vous vous initiez à la vie et surtout à la mort. D'ailleurs, il y a de très belles pages sur comment on découvre la mort à travers la mort des animaux.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je raconte dans l'album comment, on est confronté à la mort très tôt, à la campagne, et notamment la mort des animaux, et ça paraît très naturel. Alors, ça crée du chagrin, bien sûr, mais c'est naturel. Et il m'arrivait d'enterrer des bourdons dans des boîtes d'allumettes, comme d'aller tuer le cochon avec les voisins fermiers. Et la mort des hommes, ça c'est venu plus tard, ça c'est dans l'album qui est sorti il y a 2 ans. Et il y a une allusion, enfin je crois que oui, évidemment, la mort est présente dans ce livre, mais de manière vraiment en sous-texte, quoi. Je voulais pas du tout qu'elle ait encore qu'elle soit au premier plan comme dans la légèreté, mais elle est là et j'en parle sans doute de manière plus légère. Je crois que les grands espaces ont la légèreté que je ne faisais qu'annoncer en titre dans l'album précédent.
La légèreté de l'enfance.
Oui.
Alors justement, vous qui êtes retournée sur le lieu de votre enfance, dans cette campagne-là, Catherine Muris, dans l'histoire, dans la bande dessinée, avec votre sœur, vous vous amusez vraiment. Vous êtes deux filles très accrochées à cet espace. Et à un certain moment, vous dites, la petite fille que vous étiez dit ceci, qui m'a beaucoup plu, la campagne est une ludothèque qui s'ignore.
Oui.
Est-ce qu'elle l'est toujours ?
Oui, je crois. Oui. C'est vrai que il y a énormément d'activités dans les campagnes. On a l'impression qu'à la campagne, les gens ont peur de s'ennuyer. Donc,
je vous dis ça parce que l'autre affaire de votre histoire, c'est quand même l'arrivée des parcs à thème. C'est la fin d'une certaine simplicité campagnarde.
Oui. Moi, j'ai grandi dans une région, le Poitou-Charentes, écartelée entre l'hommage au passé et la vénération du futur. En fait, entre le Futuroscope et le Puy du Fou. Enfin, le contraire, entre le Puy du Fou et le Futuroscope. Et petite, quand j'étais à l'école, oui, on nous a emmenés au Futuroscope, c'était la sortie scolaire, et on découvrait le futur. C'était drôle de découvrir le futur à 7 ans. Le futur était dans une boîte, il était dans un parc, et de la même manière, le passé était dans un parc aussi. Alors, ça avait un petit peu plus de gueule, parce que le Puy du Fou, c'était raconté par Philippe Noiret, il y avait la musique de Georges Delru, il y avait des chevaliers, il y avait des choses qui m'avaient beaucoup plu. Et comme je le dis dans l'album, avec le Puy du Fou, ce qui me faisait marrer, c'est que il y avait plein de mots nouveaux qui surgissaient, mais comme gabelle, etc. Mais des mots nouveaux qui appartenaient au passé. Donc c'est là où je brouille les pistes. En tout cas, oui, je suis assez critique, et mes parents l'étaient à l'époque par rapport à cette société des loisirs qu'on voyait émerger. Ouais, ouais.
Ma mère a grandi auprès d'un cèdre majestueux, mon père auprès d'un hêtre centenaire. Et vous-même, Catherine Meurice?
Et moi, j'ai... bonne question, tout ça à la fois. J'ai grandi auprès des livres, des peintures, des... J'ai pas un arbre à moi, j'en ai plein dans la tête, mais voilà.
Vous avez planté des arbres comme vos parents ?
J'en ai planté, j'ai aidé à planter des arbres, ouais. Je crois que je saurais le faire seul.
Les grands espaces de Catherine Meurice, c'est édité par Dargaud. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci, Philippe.